Vous écoutez France Culture.
Bonjour, il demandait « La France est-elle finie ?» Aujourd'hui, il redoute que l'Europe sorte de l'histoire. J'ai invité Jean-Pierre Chevènement, c'est le titre de son nouveau livre, 1914-2014, « L'Europe sortie de l'histoire », qu'il fait suivre d'un point d'interrogation. Mais il y a d'abord la question du jour, Leonarda va-t-elle pouvoir revenir en classe ? Jean-Pierre Chevènement n'a pas été seulement ministre de l'Intérieur, il a été aussi en charge de l'éducation nationale, c'est une fois pour toutes. Jean-Pierre Chevènement, bonjour.
Bonjour.
Jean-Pierre Chevènement, je vous ai souvent interrogé. Je vais le faire une fois pour toutes à l'occasion de la publication chez Fayard de votre livre, qui anticipe, comme l'annonce son titre, 1914-2014, la commémoration centenaire de la Première Guerre mondiale. Ça sera un des événements de l'an prochain, mais pour vous, c'est comme s'il avait déjà eu lieu, l'événement, parce que, comme nous allons le voir, vous pensez savoir par avance ce qu'on va oublier pour ce centenaire de dire et qui vous paraît pourtant, à vous, essentiel. Dans votre livre, vous tirez les leçons pour demain, non seulement de la Première Guerre mondiale, mais aussi de la Seconde et des années qui ont suivi. Quand un homme politique raconte l'histoire, c'est toujours avec l'idée qu'il peut en modifier le cours. Mais commençons, comme presque toujours dans Une fois pour toutes, par l'actualité. Elle est importante. On dit ce samedi que le gouvernement va permettre à Leonarda de revenir en France. Si c'était le cas, Jean-Pierre Chevènement, est-ce que pour vous, le gouvernement commettrait une erreur ?
D'abord, cette décision n'est pas encore prise. Et je pense qu'il faut bien mesurer ce que cela signifierait. Si cette adolescente revenait en France, il faudrait que sa famille revienne elle aussi. Parce que c'est une mineure, elle a 15 ans. Donc cela voudrait dire que quiconque a un enfant scolarisé en France peut y faire venir toute sa famille, peut y venir lui-même. Ça veut dire que c'est la porte toute grande ouverte à une immigration sans contrôle. Or, je ne connais pas de pays qui n'ait pas un droit relatif à l'établissement sur son sol. Tout pays dit qui a le droit ou qui n'a pas le droit de venir s'établir régulièrement et durablement sur son sol. Je pense que les Français sont très attentifs à la décision que le gouvernement va prendre. Moi, je n'oublie pas que les classes populaires dans notre pays souffrent. Elles demandent à être protégées contre le chômage, contre la pauvreté, la misère, mais aussi contre la délinquance et contre une immigration qui, qu'on le veuille ou non, pèse sur le marché du travail. Car si l'immigration est libre, naturellement, on le voit bien dans le secteur des services, dans l'agroalimentaire breton, on voit bien que tout cela a des conséquences. Si on peut employer des gens en les payant pas très cher, je dirais tous les acquis sociaux sont évidemment menacés.
Vous élargissez beaucoup, énormément.
Oui, j'élargis beaucoup parce que le problème de l'immigration ne peut pas être traité indépendamment du reste.
Pour vous, c'est clair, si le gouvernement permettait à cette jeune fille de revenir en France, de revenir en classe, pour vous, ça serait une erreur.
Ce serait plus qu'une erreur parce que ce serait, je dirais, un manquement à la loi. Il y a eu une demande d'asile formulée par son père, kosovar, rejetée à deux reprises. Un recours devant le tribunal administratif, rejeté, un appel. Ensuite, une nouvelle intervention au titre de la circulaire Valls. Donc voilà 4 ans et demi que cette famille de 7 personnes se maintient sur le sol français, au mépris des lois, sur la base d'un mensonge. Parce que cette famille n'est pas kosovare, comme l'a déclaré le père. La mère et tous les enfants, à part un seul, sont nés en Italie. Donc, moi, je propose une application ferme, mais humaine, de la loi.
Vous avez entendu ce que disait hier Valérie Trier-Weller, notamment. Les enfants ne sont pas responsables de ce que font et de ce que disent leurs parents.
Un enfant mineur est sous la tutelle de son père, et son père, évidemment, engage des procédures au nom de cet enfant. Donc, ce que je propose, c'est une application humaine de la loi. Il y a des écoles françaises au Kosovo.
Ah, ça, c'est nouveau. Alors ça,
eh bien, oui, là... on peut très bien ouvrir la possibilité à cette jeune adolescente de poursuivre ses cours à Mitrovica ou à Pristina. Hein, il y a sûrement une ou plusieurs écoles françaises qui peuvent l'accueillir. Mais on n'est pas obligé de rapatrier avec elle toute la famille. Enfin, rapatrier, c'est une façon de parler. Hein. On n'est pas obligé d'accueillir sur le sol français quiconque en fait la demande, surtout sur la base d'arguments mensongers.
Libération dit que le gouvernement s'apprêterait bien à autoriser que Leonarda revienne en France, mais Libération dit en même temps que Manuel Valls aurait laissé entendre qu'il pourrait alors démissionner, qu'il aurait dit « si elle revient, je peux m'en aller ». Pas « je m'en vais », je peux m'en aller.
Écoutez,
vous
je
pensez
pense
que s'il a, s'il a brandi ce... cette menace, il a eu raison?
Je pense que ce serait une erreur. Je pense que la loi s'applique. La première des valeurs républicaines, c'est le respect de la loi. Hein, cette loi a été votée, elle a été corrigée par l'actuel gouvernement. Hein, elle peut être précisée parce qu'on m'a dit qu'effectivement, une interpellation ne peut pas avoir lieu dans l'enceinte de l'école. Pourquoi pas? Mais l'école définie comme un sanctuaire par Alain l'était dans une optique tout à fait différente. On voulait séparer l'école du monde extérieur parce que l'école est un endroit qui est fait pour qu'on apprenne. Mais là, on dit n'importe quoi. Par exemple, la police doit bien évidemment pouvoir intervenir à l'intérieur d'une école si une enseignante est agressée, voire blessée à coups de couteau, comme c'est arrivé. Hein, il faut que le proviseur puisse faire appel à la police. Donc, ne parlons pas de la sanctuarisation de l'école.
Mais parmi toutes les réactions, voilà, je voudrais vous faire écouter seulement celle-là d'un ministre qui n'est pas de l'Intérieur, qui n'est pas de l'Éducation nationale, puisqu'il s'agit de Cécile Duflot.
Je pense que le plus important, c'est de voir au travers de cette histoire la démonstration de leur capacité d'intégration. Elle est allée presque 5 ans à l'école, elle parle français, chacun l'a entendu avec l'accent franc-comtois. Donc je pense que voilà, c'est la chance de notre pays, c'est la chance de la République, cette capacité de faire en sorte que les uns et les autres, enfants d'où qu'ils viennent, soient capables de s'intégrer dans notre pays et d'y avoir toute leur place.
Voilà votre réaction comme ancien ministre de l'Éducation nationale qui disait dans cette fonction que l'école était dans une république à refaire l'outil le plus important.
Bien entendu, mais on ne peut pas disjoindre le sort de cette jeune fille de celui de sa famille. Il y a aussi un principe, c'est qu'on ne sépare pas un enfant de ses parents. Ça n'a pas de sens. Et le Kosovo, ce n'est pas la Corée du Nord. Je dirais qu'elle bénéficie, cette famille, d'un certain nombre de conditions d'accueil. Et je propose que la petite Leonarda puisse être accueillie dans une école française.
Oui, mais enfin, reconnaissez que là, ça... c'est un truc que vous avez trouvé, mais...
Oui, parce que c'est une manière d'appliquer humainement la loi dans
des conditions... Et si cette solution n'est vraiment pas possible?
Alors écoutez, le dossier est faussé dès le départ par le mensonge du père, M. Dibrani.
Mais la fille n'en est pas responsable.
Non, la fille n'en est pas responsable.
Et elle montre qu'elle veut s'intégrer à la société française.
Eh bien écoutez, rien n'empêchera... ultérieurement, si elle en fait de la demande, hein, et le jour où elle aura satisfait aux conditions légales, qui est quand même la disposition d'un logement et de ressources, hein, je rappelle ce que sont les termes de la loi, de l'accueillir. Mais il faut que la loi soit la même pour tous. Sinon, c'est un principe... j'ai entendu leur problème, et visiblement, Madame Duflot évoquait le problème des Roms. Mais moi, je ne traite pas ça du point de vue des Roms. Je ne veux pas ethniciser ce problème. Je me place du point de vue de la règle générale.
Mais quand on dit que les Roms n'ont pas vocation à vivre en France, précisément, Manuel Valls, en parlant des Roms, a dit que les Roms avaient vocation à rentrer en Bulgarie, en Roumanie. En disant cela, est-ce qu'on ne sort pas du pacte républicain? Est-ce que ce ne sont pas des propos où on sort du pacte républicain?
Ils ont vocation, écoutez, actuellement, ils n'ont pas le droit de s'installer sur le territoire français, même lorsqu'ils sont originaires de Roumanie et de Bulgarie, parce qu'il y a des clauses suspensives. Donc,
est-ce qu'on peut dire d'une communauté qu'elle n'a pas vocation à être chez nous ?
D'une communauté, en tant que communauté, en effet, il y a à peu près 10 millions de Roms en Europe, ils n'ont pas tous vocation à se regrouper en France. Alors, si moi je ne veux pas ethniciser la question, si telle ou telle personne, qu'elle soit Rome ou autre chose, peut s'intégrer, je suis pour. Je vous rappelle que j'avais intégré 80 000 personnes, plus exactement régularisé en tant que ministre de l'Intérieur 80 000 personnes, mais sur des critères d'intégration. Et naturellement, comme il y avait 140 000 demandes, il y a eu 60 000 refus. Mais il y a quand même eu 80 000 régularisations en 1997-98.
Tous les événements, quelle que soit leur importance, c'est l'histoire qui leur donne leur vraie dimension. On se souvient encore de ce qu'on disait en mai 68. Nous sommes tous des Juifs allemands. Quand il s'agissait de protester contre l'expulsion de Daniel Cohn-Bendit. Et aujourd'hui, Daniel Cohn-Bendit dit nous sommes... Il constate que les lycéens disent « Nous sommes tous des Kosovars, des lycéens ». Est-ce que ce n'est pas formidable ?
Eh bien, écoutez, non, parce que dès 1968, c'était une provocation. Car Georges Marchais avait dit « Daniel Cohn-Bendit est un anarchiste allemand ». Et la réponse massive orchestrée par, on imagine, un certain nombre de gens, à l'arrière-plan, a été « Nous sommes tous des Juifs allemands ». Mais Georges Marchais n'avait pas dit ça. Il faut rendre cette justice quand même à Georges Marchais.
Jean-Pierre Chevènement, le président Hollande a fait de la jeunesse sa priorité. Est-ce que vous l'imaginez réellement accepter la perspective de voir se dresser contre son gouvernement la jeunesse.
Je pense que le premier devoir du président de la République, c'est un devoir de pédagogie à l'égard de la jeunesse. Expliquer le sens de la loi, pourquoi cette loi a été votée par le Parlement, comment elle doit s'appliquer, comment on peut l'appliquer plus humainement, mais si cela est possible. Mais la loi doit s'appliquer, et c'est la responsabilité que nous avons vis-à-vis de la jeunesse, parce que la jeunesse, elle est fragile, elle a aussi besoin de la loi. Rappelez-vous Lacordaire, dans... Le poulailler libre, où le renard peut s'ébattre tout à loisir, c'est la loi qui protège et c'est la liberté qui opprime.
À l'instant, on apprend que le rapport officiel qui a été remis à Manuel Valls dit que l'expulsion de Leonardo Di Bari serait conforme à la réglementation en vigueur.
Bon, écoutez, c'est ce que je vous explique. Et je pense qu'il ne faut pas non plus prendre pour bouc émissaire le préfet du département concerné, comme je l'ai vu faire par un haut dirigeant socialiste, Harlem Désir, parce que nous ne devons pas traiter les préfets comme l'a fait M. Sarkozy. Je pense que le corps préfectoral a une déontologie, il a des qualités professionnelles qui doivent être respectées. En l'occurrence, il a appliqué la loi.
Bon. Un dernier mot, vous disiez, c'est connu, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Vous avez, voilà, Cécile Duflot vous a répondu. Non, un ministre, ça agit, ça ouvre sa gueule et ça ne démissionne pas.
C'est évidemment la théorisation de l'incohérence gouvernementale. C'est un très mauvais service rendu au gouvernement à laquelle appartient Cécile Duflot, que je trouve sympathique par ailleurs sur le plan personnel. Mais je pense que si tous les ministres raisonnent comme ça, alors il n'y a plus qu'à mettre la clé sous le paillasson.
Mais pour la transparence, la démocratie, après tout, c'est pas bien que des ministres réfléchissent à haute voix et débattent publiquement.
Avant qu'une décision soit prise, naturellement, un ministre peut s'exprimer. Il doit le faire avec une certaine modération, en pensant que la décision va intervenir. Mais je pense que... un ministre doit d'abord manifester sa solidarité. Si ça veut l'ouvrir, ça démissionne. Moi, je l'ai fait 3 fois sur des choses très importantes. Le choix du Francfort, dont nous payons encore le prix aujourd'hui, par la désindustrialisation de la France. La guerre du Golfe, ce n'était quand même pas une mince affaire, mais enfin, on voit le résultat en Irak et ailleurs, pour tous ceux qui ont voulu suivre, je dirais, le chemin qui a été ouvert à ce moment-là. Et puis, sur la Corse, sur la République, sur la loi, nous y sommes toujours. Il faudrait que les socialistes... apprennent quelque chose de l'histoire.
Une fois pour toutes, une émission proposée par Dominique Souchier.
Et voilà, on y est, parlons du livre. Alors, comment vous pouvez critiquer Jean-Pierre Chevènement, une commémoration qui n'a pas encore commencé? Comment vous pouvez écrire dans votre livre que pour ce centenaire, l'histoire va être instrumentalisée par le politiquement correct? Qu'est-ce que vous en savez? Ça n'a pas commencé.
Mais est-ce qu'elle l'a toujours été? D'abord, et il est bien clair que aujourd'hui, on va, à travers la commémoration de l'éclatement de la guerre de 1914, continuer à discréditer les nations, parce que ça correspond à une exigence d'aujourd'hui. Beaucoup de gens ont pensé l'Europe, et c'était un réflexe tout à fait légitime, mais ils l'ont pensé contre les nations, par substitution aux nations.
Non, mais là, on va dire, pour la commémoration du centenaire, on va dire d'abord, essentiellement, deux choses, de part et d'autre du Rhin. On va dire « plus jamais ça », et on va dire « heureusement qu'aujourd'hui, il y a l'Europe ». Vous n'allez pas contester ces deux évidences, ce n'est pas le politiquement correct.
Alors, plus jamais ça, naturellement. Tout le monde sera d'accord. Mais comment éviter le renouvellement d'une pareille guerre? Je vous rappelle que très rapidement, on a vu une contestation du traité de Versailles, et puis que 15 ans après, Hitler était au pouvoir en Allemagne, et qu'il y a eu une deuxième guerre mondiale. Nous voulions que ce soit la dernière des dernières, ce ne l'a pas été. Et en 1940, la France s'est effondrée, parce qu'elle était minée par un pacifisme généralisé, à droite et à gauche. Alors, on ne veut plus du tout de cela, l'Europe.
Moi, le traité de Versailles, on dit, qui a conclu la guerre de 14, on dit en même temps qu'il a provoqué la Seconde Guerre mondiale, parce qu'il imposait comme humiliation à l'Allemagne. Vous, vous pensez pas ça? Vous pensez
Je pense
que cette paix de Versailles a été, je vous cite, prophétique?
Prophétique, non, je n'ai pas écrit qu'elle était prophétique, enfin je ne me souviens pas.
Fondatrice.
Fondatrice, oui, fondatrice. Pardon. Fondatrice parce que c'était l'une des conditions de Wilson, l'autonomie des peuples, le respect de leur volonté de devenir indépendants s'ils le souhaitaient, eh bien ça devait se faire. Et naturellement, le traité de Versailles a donné naissance à des pays comme la Pologne, qui avait disparu de la carte de l'Europe depuis la fin du XVIIIe siècle, a permis à des pays comme la Roumanie, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, hein, la Yougoslavie, de se constituer. Et ce sont des pays qui, en dehors de la Yougoslavie, je passe sur la Tchécoslovaquie qui, d'une manière volontaire, a accepté une scission entre la Tchéquie et la Slovaquie. Mais enfin, cette carte de l'Europe dont nous avons hérité, elle résulte de Versailles et du principe qu'avait affirmé la Révolution française. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc elle était fondatrice. Et la critique que font les Allemands de l'époque au traité de Versailles, et qui ne font plus aujourd'hui. Lisez Joschka Fischer dans un livre d'entretien avec l'historien Fritz Stern. Il dit « Le traité de Versailles était beaucoup trop doux. » Parce que pour casser le militarisme prussien, il a fallu aller jusqu'en 1945, jusqu'à la capitulation sans condition.
Jean-Pierre Chevènement, souvent on dit des guerres, qu'elles sont provoquées par les circonstances, par l'économie. Vous rappelez la phrase de Jaurès, « Le capitalisme porte la guerre en son sein » comme la nuée, l'orage. Mais vous, vous ne pensez pas ça. Vous pensez que la guerre, vous l'affirmez à plusieurs reprises dans ce livre, est pensée et voulue par les hommes, et dans le livre, vous les désignez. Vous dites la guerre de 14, ce n'est pas le peuple allemand qui l'a voulu, mais ce sont bien les dirigeants allemands et austro-hongrois, ce sont aussi leurs chefs militaires. Vous dites la responsabilité de la guerre de 14, elle est là.
Oui, alors la responsabilité immédiate, parce que en arrière-plan, je compare deux mondialisations et je montre qu'à l'intérieur de la première mondialisation, la mondialisation britannique, qui s'étale sur le 19e siècle jusqu'en 1914, il y a une modification de la hiérarchie des puissances. L'Allemagne impériale monte impétueusement sur tous les plans, en particulier économique, mais aussi de ses armements navals. Et l'Empire britannique se sent menacé. Il se rapproche de la France, puis de la Russie, au début du XXe siècle. Donc il y a des causes générales, et c'est la théorie de la puissance hégémonique, de l'hégémon, qui explique la guerre de 1914-18. Mais dans l'immédiat, c'est un fait que les dirigeants allemands, Bethmann Hollweg, le chancelier Guillaume II, et surtout l'état-major impérial, Moltke, Falkenhayn, Tirpitz, prennent la responsabilité d'une guerre européenne en choisissant de mater la Serbie et de cautionner l'invasion de la Serbie par l'Autriche-Hongrie au risque d'une guerre européenne. Et ils la prennent eux-mêmes en déclarant la guerre à la France le 3 août, mais auparavant à la Russie le 1er août, et en envahissant la Belgique, qui était un état neutre, le 4 août, ce qui déclenche l'intervention britannique.
Et vous dites, non seulement ils ont été criminels, mais en plus ils étaient bêtes.
Ils étaient idiots.
Vous le dites.
Alors, je ne veux pas leur prêter...
Pourquoi ils étaient idiots?
Ils étaient idiots parce que d'abord, ils ont pensé régler son compte à la France en 6 semaines, ce qui n'a pas été possible parce qu'il y a eu la bataille de la Marne, grâce à l'offensive russe en Prusse orientale, que les Allemands ont arrêté à Tannenberg. Mais cela a soulagé le front français de à peu près 2 corps d'armée. Et par conséquent, ça nous a permis de résister. Et les dirigeants allemands n'avaient pas du tout prévu une guerre aussi longue. Personne ne l'avait prévu. Personne n'avait prévu des massacres aussi épouvantables. Personne n'avait mesuré ce que signifiait une guerre avec la puissance de feu des armes
Mais
modernes.
Jean-Pierre Chevènement, quand un homme politique raconte l'histoire, il ne faut pas croire qu'il devient historien. Il reste homme politique. Est-ce
oui,
que vous croyez vraiment, comme homme politique, que voilà, pour ce centenaire... il serait opportun qu'à l'occasion de cette commémoration, on dise « ben voilà, la guerre de 14, c'est vous, les Allemands, vous étiez criminels, vous étiez idiots, vous pensez que c'est opportun politiquement de le faire ?»
Alors, je ne dis pas cela, et je critique même le traité de Versailles de ne pas avoir distingué la responsabilité politique des dirigeants allemands qu'ils ont pris au nom de l'Allemagne et la responsabilité morale qui n'incombe pas au peuple allemand, qui ne voulait pas la guerre, pas plus que les autres. Et d'ailleurs, je prends garde de pointer le fait que les nations européennes ne voulaient pas la guerre, elles étaient pour la paix. Et par conséquent, c'est une décision qui était prise par un petit noyau de dirigeants. Alors, est-ce opportun de le rappeler? La vérité est toujours opportune, parce que la Première Guerre mondiale débouche sur la Seconde. Et par conséquent, il faut quand même essayer de comprendre comment nous en sommes arrivés là.
Mais vous dites, on a rédigé, par exemple, on a fait un livre d'histoire commun pour les écoliers allemands et les écoliers français. Ce
oui.
qui est bien, vous le regardez ce livre d'histoire, et vous dites c'est dommage parce qu'on pratique dans ce livre l'art de l'estompage.
En effet, le problème...
C'est quoi l'estompage en histoire?
L'estompage, c'est gommer. On étend la couleur, on gomme complètement les responsabilités de l'éclatement de la Première Guerre mondiale, ce qui est une façon de justifier le procès qui a été fait par Hitler, mais qui a encore fait quelquefois en Allemagne, mais même en France. J'étais avec un journaliste il n'y a pas très longtemps qui m'a dit « mais c'est la Russie qui a déclaré la guerre à l'Allemagne ». Ah, je lui ai dit non. La théorie de l'encerclement, c'est une théorie allemande. On en a persuadé le peuple allemand, mais c'est l'Allemagne qui a déclaré la guerre à la Russie le 1er août 1914. Alors, je pense que le manuel franco-allemand estompe en effet la question des responsabilités, parce que c'est politiquement très incorrect d'évoquer ce sujet. On voudrait couper les peuples de l'Europe de leur passé, on ne ferait pas autrement. Or, moi, je suis pour une compréhension globale, extensive de l'histoire. Et je ne fais peser aucune responsabilité particulière sur le peuple allemand, qui a eu une unité territoriale très tardive.
Non, vous dites pas le peuple, mais vous dites ses dirigeants.
Oui, ses dirigeants, ben je pense qu'il faut le dire. Le compromis social bismarckien entre les Junkers de l'Est, l'aristocratie foncière et militaire, et les industriels de l'Ouest, de la Ruhr, les grands Krupp, Thyssen, fabricants d'armement, ce compromis fondamental n'a été détruit qu'en 1945.
Vous citiez...
Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Joschka Fischer, d'ailleurs, dans un livre « Gegen den Strom, contre le courant », qui n'est pas traduit en français, mais que j'ai lu, qui vient de paraître cette année.
Joschka Fischer, dont vous parlez beaucoup dans le livre, qui était ministre allemand des Affaires étrangères, qui était un vert, qui était fédéraliste, qui est fédéraliste. Vous disiez, En réalité, il veut ressusciter le Saint-Empire germanique.
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que l'idée de l'Europe fédérale était naturelle aux Allemands, qui avaient vécu dans une structure qui n'était pas à proprement parler fédérale, mais qui était une structure qui agglomérait différents peuples et différents États. En Allemagne, on parle de Kleinstaaterei, c'est-à-dire le régime des petits États. Il y en avait 360 avant 1789 et encore une trentaine après 1815. Donc, je dirais que ce mécanisme qui consisterait à landeriser la France, pour employer le mot « Länder », qui est le mot qu'on emploie en Allemagne pour désigner les États fédérés, je pense que ça ne convient pas à la France. Nous sommes un pays différent.
Et vous dites, au final, alors que l'Allemagne domine aujourd'hui l'Europe, pourquoi voudriez-vous que Mme Merkel se montre conciliante?
Elle peut se montrer conciliante parce que c'est l'intérêt de l'Allemagne, parce que le système de la monnaie unique repose sur une erreur de conception. Et la monnaie unique juxtapose des pays très différents, d'un niveau économique qui peut varier de 1 à 6 ou 7. Et par conséquent, c'est un tonneau des Danaïdes. Je pense que la monnaie unique n'est pas viable à terme. Donc l'Allemagne ne voudra pas payer. Et je m'appuie sur un économiste allemand qui est le plus connu des économiste en Allemagne, qu'il s'appelle Hans Werner Sinn, qui dit que naturellement il y a des pays qui feraient mieux de dévaluer que de s'astreindre à des disciplines, une dévaluation interne dont on voit le résultat en Grèce ou en Espagne.
Dans le livre, bon, tout le monde sait que vous avez toujours été contre l'euro, dans le livre vous ne le détruisez pas totalement, vous proposez qu'on crée un nouveau système européen bis, où il y aurait de nouveau des monnaies nationales, mais dans un cadre européen, l'euro ne serait plus la monnaie unique, serait la monnaie commune.
Serait la monnaie commune qui permettrait d'agglomérer la Grande-Bretagne et la Russie. Et je pense qu'il faut voir l'Europe en grand. Nous sommes dans la deuxième mondialisation qui est dominée.
Mais quand il y avait un serpent monétaire, vous vouliez qu'on en sorte, Jean-Pierre Chevènement?
Parce que ce serpent avait pour but de conduire à la monnaie unique. Or là, on créerait un système qui, dans un monde dominé par les États-Unis et la Chine, permettrait au peuple européen de réaliser une grande confédération de peuples libres, du Maghreb jusqu'à la Russie, parce que je pense que c'est la bonne dimension. Et ça nous permettrait d'avoir avec l'Allemagne un rapport de coopération réellement fécond. Donc je propose de construire cette Europe sur la base d'un dialogue franco-allemand beaucoup plus approfondi qu'il ne l'est aujourd'hui. Et je montre quand même les limites du traité de l'Élysée à travers deux points, l'apprentissage de la langue de l'autre et la défense commune. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire pour construire une Europe qui tienne la route. Et les Français le savent aussi. Hein, ils l'ont montré, ils l'ont dit à travers le référendum de 2005. Ils le pensent aujourd'hui. Alors écoutons-les un peu davantage.
Bon, on va écouter, nous, le journal d'Antoine Maret, qui va nous confirmer que l'expulsion de France vers le Kosovo de la famille de Leonarda est conforme à la réglementation en vigueur, selon le rapport qui a été remis à Manuel Valls, mais ce n'est pas encore la décision. Question, pour vous, qui incarne le mieux la gauche de demain? C'est Manuel Valls ou Arnaud Montebourg?
Je dirais que les deux l'incarnent à leur manière, car Arnaud Montebourg mène également un combat pour le « made in France », c'est-à-dire pour la réindustrialisation du pays. Je crois que ce combat est absolument fondamental et c'est pour avoir sacrifié notre industrie à une monnaie trop forte dès 1983. Mais ensuite, avec la monnaie unique, nous voyons que le dollar est tout près de... Enfin, un euro, c'est $1.40. Donc c'est une monnaie qui écrase non pas l'industrie allemande, qui est très compétitive parce qu'elle a des spécialisations monopolistiques, mais qui écrase en tout cas l'industrie des pays de l'Europe du Sud et la nôtre. Nous sommes le pays le plus désindustrialisé d'Europe aujourd'hui.
Jean-Pierre Chevènement, merci beaucoup. J'ai appris, il était temps, dans le livre, en note de bas de page, qu'autrefois Chevènement s'écrivait avec un S. ça se prononçait comment ? Un S devant le chevènement.
Oui, c'est Schwendimann ou l'homme de Schwendi. Schwendi est un petit village du canton de Fribourg, la partie germanophone. Donc, voilà, je suis d'origine germanique par ma famille. Mais enfin, tout ça s'est mêlé de beaucoup d'autres choses. Et ils sont venus en Franche-Comté, pas très loin de Pontarlier et de Levier, hein, où le S est tombé au début du XVIIIe siècle et Chevènement s'écrit avec un C.
Jean-Pierre Chevènement, merci. Jean-Pierre Chevènement, une fois pour toutes, 1914-2014 est publié chez Fayard. Le week-end prochain, je recevrai Monsieur Football, Frédéric Thirier, le président de la Ligue. Cette émission a été réalisée par Viviane Noël, avec à la technique Jacques Hubert. J'ai préparé l'émission avec Théo Corbucci.